on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC After Europe. Le podcast. Nicolas Villas.
Hola, vive Varia, ravi de vous retrouver dans votre podcast After Europe, After Sans Frontières même. Aujourd'hui, direction l'Amérique du Sud. Quatre équipes brésiliennes sur les deux finales continentales qui arrivent. Le 20 novembre prochain, finale de la Copa Sulamericana, l'équivalent de l'Europa League pour l'Amérique du Sud entre l'Atlético Paranaense et le Red Bull Bragantino. Le 27 novembre, finale de Libertadores, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions pour la Conmebol. Duel entre les deux derniers vainqueurs de la plus prestigieuse compétition des clubs d'Amérique du Sud, Palmeiras Flamengo.
Na galeria dos campeões, poucos gravaram o nome na história. E agora é a hora do desempate para os dois últimos vencedores. Mas só um vai se sagrar o novo tricampeão da América. Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro. Grande finale de la Copa Conmebol Libertadores.
Et voilà, vous l'aurez compris, podcast avec l'accent du Brésil. Alors du coup, on peut se poser la question avec ces quatre clubs brésiliens en finale continentale. Le foot brésilien est-il en train de renaître? Pour y répondre, plateau de choix, de qualité une fois encore. Il est le créateur, le fondateur, le seigneur du site Lucarno Posé, Nicolas Cougo. Salut Nico.
Salut Nico, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors Nico Hello ne pourrait briller sans des artistes comme Marcelin Chamoin alias Marcelinho. Salut Marcelin.
Salut Nico, salut à tous.
Et alors invité exceptionnel dans ce podcast After Foot, il a seulement 30 ans, il est l'un des adjoints de la légende du São Paulo FC, actuel entraîneur du Sampa, Rogério Ceni. Charles Amber est avec nous. Oi Charles, merci d'être avec nous Charles.
Oi, bonjour, merci à vous pour l'invitation.
Merci à toi d'être là, parce qu'en plus il y a un match aujourd'hui, jour d'enregistrement de ce podcast. Alors avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, raconte-nous comment un Français de 29 ans, passé par une école de commerce, qui a bossé dans la grande distrib, la cosmétique, s'est retrouvé dans le staff d'une équipe de Serie A brésilienne, aux côtés d'une légende comme Rogério Ceni.
Alors, tout a commencé en 2013, quand j'ai intégré le comité d'organisation de la Coupe du Monde, 2014 au Brésil, comme agent de liaison de la délégation camerounaise. Donc j'ai pu participer à la Coupe du Monde. Puis après, j'ai intégré une agence de marketing sportif à Londres qui détient les droits d'exclusivité d'organisation des matchs amicaux de la sélection brésilienne. Donc on organisait des matchs amicaux un peu partout dans le monde du Brésil. Et puis lors de la Copa América Centenario en 2016, aux États-Unis, j'ai rencontré Rogério Ceni qui venait de prendre sa retraite. Je suis d'abord devenu le traducteur de son assistant anglais Michael Beal en 2017 au São Paulo Football Club, qui est maintenant devenu l'adjoint de Steven Gerrard. Puis je suis devenu son adjoint à Fortaleza, l'équipe qu'on va affronter ce soir en 2018, 2019 et 2020. Puis on est allé au Flamengo, on a été champion du Brésil en février de cette même année. Et on est de retour, 4 ans après, au São Paulo, qu'on entraîne depuis maintenant un mois.
Alors je le disais, hein, t'as un parcours quand même hors du commun, t'es encore tout jeune, mais c'est quoi ton background, ton parcours dans le foot?
Mon background, c'est j'ai toujours été passionné de football, grand amateur de football. J'ai joué, comme nous tous, en club plus jeune. Mais j'ai fait ma seconde au lycée français de Milan. J'ai joué dans l'équipe moins de 16 ans du Milan AC. Mais à l'âge fatidique de 15-16 ans, quand on doit faire le choix déterminant de si on continue ou on va en sport-études, j'ai opté pour la sagesse et les études. Et du coup, j'ai jamais joué à un niveau plus élevé que ça.
Bah écoute, c'est merveilleux. Et t'as quoi l'objectif d'être entraîneur principal un jour?
Dans ce métier, d'autant plus au Brésil, tout va si vite sens comme dans l'autre, que j'ai appris avec le temps à pas trop faire de plans à moyen et long terme. Donc pour l'instant, je profite du quotidien, je profite de cette expérience exceptionnelle que je vis, et on verra un peu plus dans un certain temps comment se présenteront les choses. Mais pour l'instant, je profite de cette opportunité exceptionnelle qui m'est offerte.
Je sens, Nico Cougo et Marcelin Chamoin, que ça sent le bon article à venir, ça sur lucarnoposé.fr. L'incroyable parcours de Charles.
Donc en plus, bah, il le disait, il a commencé à Fortaleza avec Ceni, mais ça a vite changé de dimension quand même, parce que voilà, champion du Brésil avec Flamengo, en plus, je vais pas trop en dire sur Flamengo avec Marcelin, parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je disais. faut y aller mollo avec Flamengo, mais voilà, ouais, le parcours est juste incroyable et je ne peux que valider le fait de vivre au jour le jour, surtout au Brésil, même s'ils essayent de calmer un peu les dirigeants, ça marche pas forcément des masses, donc ouais qui profite, c'est génial. Enfin franchement, c'est une histoire incroyable. Ouais.
Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et revenir au São Paulo. Ton São Paulo, mon cher Charles, qui est le club brésilien comptant le plus de trophées continentaux, 3 Libertadores, une Sul-Americana, la première Libertadores remportée par le tricolore paulista. Remonte à 1992, le Newell's Old Boys de Berizzo Pochettino, entraîné par un certain Marcelo Bielsa, succombe en finale face au São Paulo de Cafu, de Raí et de Tele Santana. 1-0 à l'aller pour les Leprosos, idem au retour pour les Brésiliens. La décision se fait au tir au but et le héros s'appelle...
Zé Tchê! É campeão!
Cette finale de Libertadores 92 qui opposait donc Argentins et Brésiliens, et c'est entre eux que se dispute l'hégémonie du foot sud-américain. Alors en termes de trophées de club, l'Argentine reste devant le Brésil. Libertadores sous l'Américaine a confondu 34 titres pour les clubs argentins, 24 pour les Brésiliens. Mais depuis 2010, ça balance clairement côté Brasil. Le Brésil compte 8 succès en Libertadores contre 3 pour l'Argentine. Et si on inclut la Sul-Américaine, alors ça s'équilibre un peu plus, mais les Brésiliens restent devant. 12 titres continentaux pour les clubs brésiliens, 8 pour les Argentins. Nico, comment on explique ces bons résultats des clubs brésiliens ces dernières années ?
On va les expliquer sur plusieurs aspects. Le premier, je pense, principal, c'est la puissance financière. Si je dois prendre un parallèle avec l'Europe pour que ça ancre les esprits de nos auditeurs, le Brésil, c'est la première ligue en Amérique du Sud. Donc, sauf qu'il n'y a personne véritablement pour venir les contester. Je vais prendre un exemple, tiens d'ailleurs. On va parler de Flamengo. Je sais pourquoi, parce qu'il est prévu de parler de Flamengo après. Donc je vais mettre ma petite bâche à Flamengo là pour chauffer Marcelin. Quand Peñarol va gagner contre Flamengo en 2019 au Maracana, la différence de budget entre les deux clubs, c'est en gros 7-8, un facteur 7-8. Donc en gros, pour illustrer, c'est comme si Saint-Etienne jouait Manchester City en Champions League, vous voyez. Ouais. Donc ça, c'est pour illustrer la puissance financière. Quand Flamengo joue Independiente del Valle, le budget d'Independiente del Valle, c'est 7 millions d'euros. C'est même pas un budget de Ligue 2, quoi. Tu vois, donc la puissance est sans égale. Ça n'empêche pas Independiente del Valle de taper sa Flamengo en Libertadores. Bref, mais oui, on a une puissance financière sans commune mesure. Et il y a un modèle de gestion qui est aussi particulier et plus ou moins bon pour beaucoup, mais cet aspect-là impacte avec les compétitions qui se déroulent sur toute l'année calendaire. Puisqu'elle démarre en janvier-février, elle se termine là, tu vois, tu donnais le programme fin novembre. Et donc, qui bouscule complètement ceux qui sont maintenant comme des petits clubs sur le plan économique. Pour reprendre l'exemple Peñarol, ils ont un budget qui est de moins de 20 millions d'euros. Et quand ils démarrent une compétition avec un effectif, ils ne la terminent pas avec eux. Et pour illustrer, l'Atlético Paranaense les a éliminés en demi-finale de Copa Sudamericana. L'un des joueurs décisifs de ce match, c'est David Terrance. Il avait commencé la compétition avec Peñarol. Palmeiras, qui est en finale de la Libertadores, a dans son couloir gauche un joueur qui s'appelle Joaquín Piquerez, qui avait été l'homme des hommes du match pour Peñarol en Sudamericana quand ils sont allés gagner face aux Corinthians. Donc les autres clubs sont asséchés. Ça, c'est l'aspect économique. Et il y a le format. Cette année, il y avait 7 Brésiliens en Libertadores. Il y en avait 5 qui étaient déjà présents, déjà qualifiés pour la phase de groupe. Il y en avait 6 en Sudamericana, les 6 directement qualifiés pour la phase de groupe. Pour les autres pays, il y a que l'Argentine qui arrive à avoir à peu près autant de spots dans la phase de groupe, mais les autres pays, ils en ont que 2. Ils s'éliminent entre eux avant, donc il y a plus de place pour les autres. Et l'an prochain, ça sera pire, parce que comme on a 2 finales Brésil-Brésil, on va avoir 9 Brésiliens en Libertadores, on en aura 10, dont 7 directs en phase de groupe, on en aura 6 en Sudamericana. Donc pour vous donner une idée, c'est 15 clubs de Brésiliens en compétition continentale, c'est comme si vous aviez 15 clubs de Première Ligue en Champions League ou Ligue Europa, je vous laisse imaginer ce que ça donne.
Forcément, Marcelin, ça aide, tout ça.
Oui, je pense que la différence se fait surtout sur la puissance financière, parce que les droits télé du Brésilien et aussi de la Coupe du Brésil rapportent beaucoup d'argent, et puis il y a de nombreux clubs qui ont fait des investissements aussi dans des stades privés et modernes, donc ça permet de générer des revenus et d'attirer des sponsors. Il y a l'Atlético Mineiro, par exemple, qui a recruté Hulk et Diego Costa cette année et qui arrive aussi à aller chercher des joueurs en Amérique du Nord. Il y avait Savarino et Vargas l'année dernière et aussi en Argentine avec Nacho et Zaracho, par exemple. Donc, on voit que même l'Argentine n'arrive pas à rivaliser financièrement avec le Brésil sur le continent.
Alors, quand on rentre dans le détail, on constate hein, que depuis 2010, les 7 vainqueurs brésiliens de Libertadores sont 7 clubs différents. Charles, comment tu traduis ça pour toi? Est-ce que c'est un signe d'instabilité ou au contraire, finalement, de richesse du football brésilien?
Ça s'applique pas uniquement sur la scène internationale en termes de Libertadores et de Sudamericana, ça s'applique au championnat local. Ce qui a toujours caractérisé le championnat brésilien, c'est justement... chaque année un champion différent. Donc je pense que ça traduit les deux en même temps. D'une certaine manière, c'est clair que ça traduit une instabilité parce qu'il n'y a pas de club qui réussit à s'installer au sommet en continu. Mais d'une autre manière, je trouve que ça démontre également une grande richesse parce que on dit souvent que le championnat du Brésil est le championnat le plus équilibré du monde parce que tout le monde peut gagner chez tout le monde. Parce qu'il y a énormément de turnover et à chaque fois, on a des champions différents.
Oui, Marcelin, tu es d'accord avec ça?
Oui, après, sur la Libertadores, je pense qu'il y a eu deux périodes depuis 2010, entre 2010 et 2014, où comme il y avait la Coupe du Monde qui arrivait, ça a permis aux clubs soit de retenir leurs joueurs, leurs jeunes joueurs, soit d'attirer des vétérans. Je pense par exemple au Santos de Neymar en 2011 et l'Atlético Mineiro de Ronaldinho en 2013. Et puis ensuite, il y a eu la réforme de la Libertadores, donc en 2017, où ça offre plus de place aux Brésiliens, et donc ils peuvent se permettre d'investir à moyen terme, parce qu'ils ont l'assurance ou la quasi-assurance de jouer la Libertadores chaque année. Et puis il y a aussi la restructuration de Palmeiras et Flamengo au début des années 2010, et parce que depuis 2016, les deux sont systématiquement dans les quatre premiers du Brasileirão. Il y a deux exceptions en 2017 pour Flamengo et 2020 pour Palmeiras, mais à chaque fois, les deux étaient qualifiés en finale continentale et aussi la Coupe du Brésil, donc le championnat était un petit peu moins important, mais du coup, on voit depuis quelques années quand même cette domination Palmeiras-Flamengo avec l'Atlético Mineiro qui arrive cette année.
Alors là, il y a les qualifs pour la Coupe du Monde qui se joue, le Brésil qui est concerné bien évidemment. Nico, est-ce que cette embellie des clubs brésiliens se retrouve au sein de la Seleção ou est-ce qu'il y a plus de joueurs locaux convoqués? Et est-ce que ça influe sur le niveau de jeu, le style de jeu peut-être même d'ailleurs de la sélection brésilienne?
Non. pour dire les choses très simplement, non. Il y a quelques joueurs du Brasileirão qui sont convoqués, mais généralement... J'ai presque envie de dire, c'est en cas de force majeure, je vais mettre de côté les gardiens, parce qu'il y a toujours un gardien qui vient du Brasileirão, enfin c'est Everton concrètement, qui est derrière Alisson et Ederson. Mais si tu regardes les dernières compétitions majeures, les deux dernières Copa América, celle de 2021 où le Brésil perd en finale, il y a que quatre joueurs qui sont issus du championnat, ça inclut un gardien d'ailleurs. Et t'en as qu'un qui joue en finale, c'est Gabigol qui entre et qui a qu'une seule titularisation dans le tournoi. Et la Copa América 2019, il y a que Everton Cebolinha qui est parti depuis, qui joue, parce qu'à ce moment-là, il est quand même assez extraordinaire. Ça se retranscrit pas forcément sur les joueurs, la Seleção est une Seleção européenne, très clairement. Ça a d'autres effets hein, au niveau de la façon dont les gens soutiennent, entre guillemets... leur sélection nationale. Et concernant Tite, il a jamais vraiment eu, on peut pas dire que c'est le sélectionneur le plus brésilien de l'histoire. Tu parlais de Tele Santana tout à l'heure pour le São Paulo de 92, on en est très loin. Tite, c'est un grand pragmatique. Non, ça influe pas, et c'est peut-être d'ailleurs, mais ça serait un autre débat, c'est peut-être d'ailleurs une des raisons du fait que le peuple footballistique brésilien se détourne de plus en plus de sa sélection.
Ça, c'est quelque chose que tu remarques, Charles, toi qui es au Brésil, justement. T'as vraiment l'impression que les supporters, finalement, préfèrent peut-être aujourd'hui leur club à l'équipe nationale parce qu'ils s'identifient moins à elle, de la non-présence de joueurs locaux, par exemple, ou du style de jeu?
Non, je pense que ça a toujours été caractéristique au Brésil que le peuple s'identifie plus à son club. Bon, certes, quand il y a des Coupes du Monde, il y a une ferveur nationale qui est vue nulle part ailleurs sur Terre, mais c'est assez caractéristique du Brésil que les supporters s'identifient plus à leur club. Cela étant dit, Tite est très contesté au Brésil, mais cela étant dit, il fait quand même une campagne assez exceptionnelle en phase de qualification, parce que si je ne me trompe pas, il en est à 11 matchs avec 9 victoires et 2 nuls. Donc, les résultats sont là. Certes, comme on l'a dit, il est très pragmatique, il est assez, assez froid, mais les résultats sont là et quand même, il délivre en termes de résultats.
Alors Nico, on parle du renouveau, de la renaissance du football brésilien. Est-ce qu'on ne peut pas dire que si le foot brésilien va mieux, c'est aussi parce que celui de son concurrent, d'Argentine, va moins bien? C'est quoi le problème finalement du football argentin? Tu parlais économie tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de freins, beaucoup de problèmes à ce niveau-là en Argentine aussi, qui peuvent expliquer l'embellie du foot au Brésil.
Ouais, t'as 2 heures devant toi là.
Non, je t'annonce tout de suite, t'as pas 2 heures, donc tu fais ça bien.
Ouais, voilà. Non, mais oui, clairement, en fait, si je dois résumer très vite, en fait, en Argentine, t'as vraiment deux clubs qui sont les arbres qui cachent la forêt, c'est River et Boca. D'ailleurs, tu le vois, hein, c'est les seuls qui survivent, qui résistent véritablement à l'hégémonie brésilienne sur les compétitions, sur la Libertadores. En fait, les problèmes, pour résumer très vite, pour l'Argentine, oui, il y a un problème économique. Alors, pour dire les choses, parce qu'on va parler aussi tout à l'heure de certains modèles brésiliens. Il y a des choses qui ne sont pas possibles en Argentine, comme la prise de l'entrée de capitaux privés dans des clubs. Il faut savoir qu'on est encore sur l'ancien modèle, et c'est aussi parce que c'est lié à l'histoire sociale des clubs. Les clubs sont des associations qui sont gérées par des sociaux. Il y a un gros débat en Argentine sur l'entrée, sur la privatisation du football. Il y en a qui ont essayé. Macri, qui a été président de Boca et de la République, a essayé, mais il a eu des vétos qui ont été posés par certains grands clubs. Donc il n'y a pas de société sportive, on appelle ça des SAD, Société Anonyme de Sport. Ils ont un mauvais exemple en face, parce que par exemple au Chili il y en a et les clubs se cassent quand même la figure. Mais il y a un problème économique. Marcelin parlait des droits télé, des droits télé brésiliens qui sont monstrueux, parce que c'est aux alentours de 360 millions d'euros. En Argentine, il y a eu le fameux Football para Todos dont on avait parlé ensemble une fois, hein, dans une vieille émission qu'on faisait tous les deux, qui à l'époque en 2015 c'était 177 millions d'euros, sauf que c'était payé en pesos, le peso s'est cassé la figure et aujourd'hui les droits télé sont à environ 70 millions. Tu vois, donc on est sur le seul championnat du monde où les droits télé s'effondre. Et puis il faut pas se cacher non plus, l'Argentine c'est quand même le pays où le football sert surtout à spéculer, à blanchir l'argent, à détourner les fonds, ce que faisait Football para Todos. Les clubs sont sous contrôle principalement d'agents qui s'en mettent plein les poches avec d'autres intermédiaires. Donc économiquement parlant, les clubs tirent la langue. Et l'autre problème, pour faire vite, l'autre gros problème, c'est l'organisation du football argentin. Aujourd'hui on est à 26 équipes, on était à 30 il y a quelques années, on devait réduire puis on réduit pas. On se retrouve avec un championnat illisible. La première partie de saison, c'est une sorte de coupe qui est plus considérée comme un championnat où les équipes sont réparties en groupes. La deuxième partie de saison, c'est un championnat avec des matchs allés uniquement. C'est invisible, il y a trop de monde, donc les droits télé sont encore plus dilués entre les clubs. Tu as du mal à attirer les diffuseurs étrangers avec ton championnat qu'on n'arrive pas à comprendre. Et très honnêtement, le championnat rapporte tellement peu que des River ou des Boca mettent le paquet sur les compétitions continentales qui rapportent plutôt que de jouer le championnat. Donc il est là le problème.
Moi, Marcelin, j'ai souvenir qu'il y a encore peu, il y a beaucoup de clubs brésiliens qui avaient des galères financières, des gros clubs en plus, hein, qui avaient du mal à payer les joueurs, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille mieux finalement, si ça va mieux d'ailleurs, hein?
Ça dépend des clubs. Par exemple, Flamengo, c'est vraiment depuis 2013 avec le président qui a voulu payer les dettes pour repartir un petit peu de zéro. Et donc, il y a eu 3 années très difficiles où il dépassait pas la 10e place. Mais au final, ça a pu payer puisqu'après, ils ont commencé à pouvoir racheter des joueurs. Ils ont investi aussi dans le centre de formation. Donc, il y a par exemple Paqueta et Vinicius Junior qui en sont sortis. Donc, ils ont apporté à l'équipe et en même temps, ils ont rapporté 80 millions d'euros. Il y a aussi une refonte du programme Socios pour gagner un peu plus d'argent. Et puis, il y a d'autres aussi, par exemple Palmeiras, où là, c'est un partenariat avec Crefisa qui apporte de l'argent. Et donc, ils ont pu recruter aussi des joueurs. Et il y a aussi un effort qui a été fait dans le centre de formation. Parce que Palmeiras, à la base, c'est vraiment pas un club qui sort beaucoup de joueurs. Et ils ont commencé, pareil, en 2013 à s'intéresser un petit peu au centre de formation. Ils ont sorti Gabriel Jesus, par exemple. Et même sur la finale de Libertadores l'année dernière, il y avait plusieurs joueurs qui sortaient du centre de formation. Donc ça dépend des clubs, mais c'est vrai qu'il y a eu un travail de fait dans les infrastructures pour avoir un peu plus de revenus, parce que c'est vrai que dans les années 2000, c'était là aussi en crise.
Charles, toi en tant que membre de staff d'une équipe du Brasileirão, c'est un truc que tu as connu, que tu as vécu aussi ça, ces galères financières?
Ah bah bien sûr. Nous on a joué au Cruzeiro, on a entraîné le Cruzeiro en 2019 et on n'a pas reçu un centime On n'a pas reçu un centime en y travaillant. On a été licencié, on n'a pas reçu nos indemnités de licenciement. Donc c'est évident qu'on vit ça au quotidien. Pas dans tous les clubs, bien heureusement, mais on vit ça, bien sûr.
Allez, on va analyser un peu plus en détail ces quatre clubs brésiliens finalistes de Libertadores et de Sul-Americana. Le 27 novembre, Palmeiras Flamengo au Stadio Nacional de Montevideo, le Verdão en tenant du titre, vainqueur d'une finale déjà 100% brésilienne l'année dernière face au Santos. Match qui s'est décidé au bout du temps additionnel.
Bola pro Palmeiras no campo de ataque, o jogo recomeça, 53 minutos e meio, levantamento para a área, olha o Palmeiras, olha o gol do Dido!
Alors le Palmeiras qui aujourd'hui est deuxième hein, de Serie A brésilienne derrière l'Atlético Mineiro. Charles, elle t'inspire quoi cette équipe de Palmeiras? Est-ce que t'en fais ton favori face au Flamengo qui est juste derrière au classement?
Non, j'en fais pas mon favori. Je pense que l'effectif d'un point de vue technique du Flamengo est bien supérieur à celui du Palmeiras. La physionomie du match sur moi est très claire. La balle va être avec le Flamengo. Le Palmeiras va laisser le Flamengo jouer. Ils vont se poster. Le Palmeiras va se poster très bas et ça va être de la contre-attaque. Donc c'est une équipe qui est très bien entraînée par Abel Ferreira, qui a beaucoup d'ailiers rapides et c'est un jeu qui est très vertical et ils vont miser sur la contre-attaque. Donc sur moi, Flamengo est favori. Flamengo dépend énormément de Arrascaeta, qui ça fait plus d'un mois qu'il le prépare uniquement pour la finale de la Libertadores. Et voilà, on va avoir une position du Flamengo. Palmeiras posé très bas, il va jouer en contre-attaque.
Alors tu l'as dit Charles, hein, Palmeiras entraîné par un entraîneur portugais, Abel Ferreira, qui vient de célébrer sa première année aux commandes du club. Alors le climat qui est loin d'être serein, il est pas mal critiqué alors par certains supporters, par la presse. Et alors hier, Marcelin, il s'est fait découper par Cicinho, l'ancien joueur, qui lui a reproché son côté. Alors je cite Cicinho, il faut qu'il oublie un peu les journalistes. En fait, il devrait changer son nom de Abel pour Gargamel parce qu'il est toujours en colère. Quel type malsain, c'est fou ça. Le mec a quasi tout gagné et pourtant il se fait découper Abel.
Oui, c'est vrai que la sortie est assez violente. Après, c'est vrai qu'il réclame beaucoup aussi dans les conférences de presse après match. Et il a réalisé une année historique, mais déjà quand il gagnait la Libertadores et la Coupe du Brésil, les matchs étaient fermés et il n'y avait pas beaucoup de jeux, alors que pourtant il a des joueurs de qualité pour le faire. Mais c'est un entraîneur oui, plutôt défensif qui va jouer en contre-attaque. Donc forcément, lorsque les résultats ne suivent pas, il va être tout de suite très critiqué. Il y a une période très difficile en milieu du championnat où Palmeiras prend 8 points en 12 matchs. Pourtant, il n'était pas non plus menacé, parce que dans le même temps, il se qualifie pour la finale de Libertadores. Mais c'est vrai que dès qu'il n'y a pas de résultat, comme il n'y a pas de jeu en temps normal, les critiques arrivent rapidement. Même si là, Palmeiras arrive assez en forme, parce qu'ils ont remporté les 5 derniers matchs du championnat. Il y a Rafael Veiga, par exemple, qui est très en forme en ce moment, qui va être un joueur à suivre pour cette finale.
Ouais, Nico, c'est quasi miraculeux, un entraîneur qui reste un an en poste au Brésil.
Surtout en plus, bah en fait son équilibre, Marcelin l'a dit, son équilibre est précaire, son équilibre tient parce qu'il a des résultats. Si je dois faire un parallèle, c'est un peu Tite avec la CDC, c'est-à-dire que tant qu'il a des résultats, ça va. On oublie un petit peu le fait que, et on l'a dit hein, d'ailleurs, l'extrait que t'as passé, c'est le seul moment frisson de la finale, hein, parce que je peux t'assurer que la finale 2020, on s'est profondément ennuyé. Son Palmeiras c'est une équipe extrêmement ennuyeuse, hein, il faut dire les choses, je veux dire, on va pas se mentir. Le seul espoir pour que la finale de Libertadores soit intéressante, c'est que Flamengo marque vite, parce que sinon ça risque d'être très très long. Surtout qu'en plus maintenant il a même plus d'avant-centre dans son équipe, hein. C'est Rony qui joue en pointe, Rony c'est un ailier, hein, donc voilà, c'est une équipe de contre, donc l'équilibre est forcément précaire. Quand tu proposes pas forcément quelque chose de très emballant pour les supporters, eh ben tu sais, c'est toujours c'est toujours un petit peu l'équilibre entre résultats ou jeu. Donc si t'as pas le jeu mais que t'as les résultats, ça va. Mais si dès que tu commences à avoir ni l'un ni l'autre, voilà. D'ailleurs, je pense très clairement que s'il gagne pas la Libertadores, ça sera sa dernière. Enfin, il va partir de Palmeiras derrière.
Et un an avant Palmeiras, c'est son adversaire, le Flamengo, qui remportait la Libertadores, finale de dingue face au River Plate de Gallardo. River qui menait jusqu'à la 89e, jusqu'à l'égalisation de Gabriel Barbosa. Gabigol, qui dans le temps additionnel, va faire basculer la rencontre dans le Incrível.
Oh la virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mengão! Gol! Épico, memorável! O maior momento da história do Flamengo! Eu só acredito porque estou narrando! Que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América. Se não tinha, tem a partir de agora.
Eh ouais, qui a dit un jour que le Flamengo n'avait pas de tradition en Libertadores? Il n'en avait pas à partir de maintenant, il en a, lance le commentateur. Tu connais bien hein, cette équipe, ce club. Charles, tu le disais tout à l'heure, t'en fais ton favori. C'est quand même un club qui est spécial. Hein. Il y a Renato Gaúcho est à la tête de cette équipe, il est troisième et pourtant lui aussi, il est très contesté finalement.
Oui, bah, nous, on en est le meilleur exemple. On a gagné tout ce qu'on pouvait gagner. On a été champion du Brésil. On a gagné la Super Coupe du Brésil. Et on a gagné le championnat de l'État de Rio donc en 8 mois. Et malgré cela, on s'est fait licencier. Donc,
et pourtant, t'en fais ton favori quand même.
Pardon ?
Et pourtant, t'en fais quand même le favori de cette finale, ton favori.
Oui, j'en fais mon favori. Simplement parce que... Parce que, comme je l'ai dit, l'effectif est beaucoup plus technique. Il y a beaucoup plus de joueurs qui ont plus d'expérience. Il y a beaucoup plus de joueurs par rapport à Palmeiras qui ont joué en Europe. L'effectif est meilleur. Donc, ils ont certes énormément de difficultés lors de ces derniers matchs. Renato Gaúcho est très contesté. Mais de toute manière, c'est un club qui est très difficile à entraîner parce qu'ils ont... Depuis l'année 2019 avec Jorge Jesus, les attentes de la presse, des supporters sont très élevées. Du coup, il faut gagner tous les matchs 3-0, il faut faire un football joga bonito, un football champagne, sinon tout le monde est mécontent. Donc c'est très, très compliqué. Mais je pense qu'ils sont encore devant. Mais il va falloir qu'ils restent attentifs parce que s'ils continuent sur cette série négative, Palmeiras peut leur poser des soucis.
Alors c'est vrai que Charles vient d'y faire référence, Nico, mais l'ombre de Jorge Jesus qui avait remporté hein, donc la Libertadores avec Flamengo il y a 2 ans, elle plane toujours. Il n'y a pas une semaine au Portugal sans qu'une question d'un journaliste brésilien lui soit posée sur un possible retour du côté de Rio de Janeiro.
Ah mais c'est parce qu'il avait construit une machine incroyable. Charles disait à l'instant que t'es obligé de gagner 3-0 avec du joga bonito, mais c'est aussi parce que le Flamengo de Jorge Jesus, c'était un peu ça, quoi. Ils dominaient totalement leur sujet. Je te remercie pas d'avoir repassé l'extrait de River Flamengo, mais je sais qu'il y en a un qui est très content là. Mais très clairement sur cette finale, par exemple, sur cette finale, on a vu petit à petit que ça allait pas tenir pour River, même si le chrono défilait, même si le scénario est totalement fou, River a parfaitement géré son coup parce que Gallardo est incroyable, tactiquement parlant, mais physiquement parlant, ça a fini par céder. La fin de match, elle était irrespirable pour les supporters de River. On voyait au fur et à mesure des minutes que cette machine-là, cette mécanique-là, allait finir par faire basculer le match parce que physiquement, ils étaient au-dessus de tout le monde, ils étaient mieux préparés que tout le monde, et puis dans le jeu, ils étaient injouables. Flamengo 2019 est vraiment injouable. Et c'est vrai que, forcément, quand tu construis ça, derrière, la pression sur les successeurs, elle est énorme, surtout que l'effectif ne s'appauvrit pas d'année en année. Tu vois, parfois, tu peux avoir cela où tu te dis, bon, bah, on a eu une génération spontanée, ou je pense à Grêmio 2017, par exemple, où t'as Luan et Arthur qui sont au-dessus du sol. Et derrière, ça s'enchaîne pas. Flamengo reste super puissant, avec un effectif super puissant qui évolue positivement chaque année, qui se renforce. Et puis il y a aussi cet aspect européen, c'est-à-dire que Jorge Jesus, c'est un entraîneur européen qui est arrivé, c'est un des vieux complexes de l'Amérique du Sud, et particulièrement au Brésil avec les entraîneurs européens. Il y a quand même un culte de l'entraîneur européen. S'il réussit, bah forcément derrière, tout le monde veut faire pareil. Et d'ailleurs, Abel à Palmeiras, c'est aussi peut-être un des héritages de la présence de Jorge Jesus à Flamengo.
Alors Marcelin, revenons à la situation actuelle du club et du Flamengo. Alors on le disait, hein, Renato Gaúcho très, très contesté, mais c'est vrai qu'en interne c'est compliqué. Il y a des salariés qui démissionnent parce qu'ils estiment que leur salaire est moins important que dans d'autres clubs. Enfin, c'est compliqué ce qui se passe au Flamengo en ce moment aussi. Hein.
Oui, c'est un club qui entre facilement en crise. Il y a toujours beaucoup d'attentes de la presse et des supporters. Et il ne suffit pas de beaucoup de choses pour déstabiliser un petit peu le club. Donc il y a eu effectivement des employés qui ont démissionné en raison du faible niveau des salaires par rapport à d'autres clubs. Il y a le nutritionniste, par exemple, qui est parti dans un club de D2 du Portugal. Donc Flamengo aurait pu s'aligner. Il y avait des primes de match. Qui ne sont plus versés maintenant. Et puis aussi le staff médical qui est très critiqué en ce moment, qui a eu beaucoup de blessures. Sur le dernier match, je crois, il y avait 10 joueurs indisponibles. Donc ça participe à ce climat fragile. Et en même temps, ça aide pas Renato Gaúcho à mettre son équipe en place, ce qui manque toujours 3, 4 ou 5 joueurs. Même si le but, et normalement ça devrait être le cas, c'est d'avoir tout le monde en forme pour la finale. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Ils ont perdu ou fait match nul sur beaucoup de matchs du Brasileirão. Ils ont gagné les deux derniers, là ça sera pas le cas cette année. Ils ont été éliminés aussi en demi-finale de la Coupe du Brésil, où Renato Gaúcho a d'ailleurs présenté sa démission qui a été refusée par le club. Donc c'est vrai que le moment n'est pas idéal pour Flamengo.
Voilà, la finale de cette Libertadores qui sera donc le 27 novembre entre le Flamengo et le Palmeiras. Évoquons aussi la finale de Sulamericana entre l'Atlético Paranaense et le Red Bull Bragantino. Focus notamment sur cette équipe de Bragantino qui en demi avait sorti les Paraguayens de Libertad.
Luan Cândido botou a bola no Arthur para fazer! O Bragantino é finalista! Gol do Braga! Arthur coloca o Bragantino em Montevideo!
Alors, outre cette qualification inédite hein, pour la finale de la Sulamericana, le RB Bragantino figure dans le top 4 du Brasileirão et ils sont pas loin d'ailleurs d'obtenir la première qualif de leur histoire en Libertadores. Alors, Marcelin, il faut que tu nous racontes un peu l'histoire de ce club qui fait aussi partie de la galaxie Red Bull. Hein.
Ah oui, c'était un club qui a été fondé en 1928 à Bragança Paulista, donc c'est à une centaine de kilomètres de São Paulo. Ils vont participer pour la première fois au championnat Paulista, donc c'est un championnat régional de São Paulo, en 1966. Ils terminent dernier et ils n'y participent plus ensuite. C'est un club qui est proche de disparaître dans les années 70. Et puis à la fin des années 1980, il va y avoir l'appui de Nabi Abichedid, donc qui était un député de l'ARENA, donc c'était le parti au pouvoir pendant la dictature militaire, et qui était aussi le vice-président de la CBF, la Confédération brésilienne de foot. Mais il était vice-président, mais c'était lui qui dirigeait. Et son frère était président de Bragantino, donc Abichedid va pousser un petit peu pour que Bragantino puisse recruter de nombreux joueurs, et ça va payer assez rapidement, parce que le club remonte en première division du championnat paulista en 89, où ils font demi-finale. La même année, ils font champion de série B, donc ils remontent dans le Brasileirão. Et en 90, ils remportent le championnat paulista. Et un an plus tard, ils perdent la finale du Brasileirão contre le São Paulo de Raí. Donc c'est un club qui va briller dans cette période-là jusqu'en 96. Et après, ils vont retomber dans l'anonymat, où ils vont jouer souvent le championnat paulista, mais sans jamais faire de parcours. Et ils vont jouer aussi plutôt en série B, donc la deuxième division, parfois la troisième division. Et en 2019, ils vont remonter en série B. Et ça va permettre d'attirer l'intérêt de Red Bull, qui avait déjà un club au Brésil, qui était basé à Guarani, donc dans l'état de São Paulo aussi, qui avait été fondé en 2007. Et faisait des parcours intéressants dans le championnat paulista. Mais au niveau national, ils n'y arrivaient pas, parce que il y a quatre divisions au Brésil, et ça dépend du classement dans les championnats d'État pour accéder à la quatrième division. Et donc ils ont fait deux participations, mais ils n'arrivaient pas à dépasser la première phase. Et donc cette fusion avec Red Bull Brasil et Bragantino permettait au groupe Red Bull d'avoir un club directement en série B.
Et est-ce que c'est un club qui a du public finalement, parce qu'il y a une vraie tradition au Brésil autour des clubs historiques justement. Est-ce que c'est un club qui est suivi, qui suscite un engouement lié aux résultats dernièrement, ou pas du tout?
Bah, avant Red Bull, assez peu, parce que je crois sur le championnat paulista 2019, il y avait peut-être 1500 spectateurs par match, avec une moyenne qui était gonflée quand il y avait un gros qui se dépassait, mais sinon c'était 500 spectateurs par match, donc il n'y avait pas beaucoup d'appui. Et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le président du club, Marquinhos Chedi, donc le fils de Nabil Abi Chedi dont on a déjà parlé. Soit le club reste petit, soit on change tout. Et donc c'est ce qui a été fait. Et maintenant, oui, maintenant qu'il y a le groupe Red Bull, il y a un peu plus d'intérêt au stade.
Nico, est-ce qu'on retrouve au sein de ce Bragantino ce qui fait la spécificité des clubs Red Bull en Europe, à savoir de jeunes joueurs et du jeu? D'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à l'écouter. On avait fait un podcast After Europe il y a quelques semaines sur la stratégie Red Bull en Europe à Leipzig et à Salzbourg. Et c'est vrai que c'est ça leur caractéristique finalement.
Ouais, on est exactement dans le même type de modèle. On va chimiser sur des jeunes. On va aussi chercher des jeunes ailleurs. Qu'on va soit parfois relancer, je pense à Yann Hurtado qui est un Vénézuélien qui avait fait beaucoup parler de lui il y a quelques temps, qui a un peu coulé en allant à Boca mais qui est maintenant à Bragantino, où on va chercher des gamins par exemple à Independiente del Valle dont je parlais tout à l'heure. Voilà, avec cette idée de les faire grandir pour aussi bien les vendre. Hein. Le meilleur exemple qui va parler à tout le monde, c'est Claudinho qui est arrivé au Zénith. On est en train de le voir en Ligue des Champions. Il a été très très bien vendu. Donc on est dans cette même politique de développement de jeunes qui sont encadrés par des cadres plus anciens, hein, toujours, parce que tu peux pas lancer qu'une équipe avec des U19, hein, c'est pas possible. Donc c'est ce même modèle et ça va. La question en fait, la question qui se pose par rapport à Red Bull Bragantino, c'est de savoir s'ils vont faire comme Red Bull fait avec ses autres filiales. C'est-à-dire que par exemple, t'as le Red Bull de New York. On sait très bien que les meilleurs jeunes du Red Bull New York vont faire des stages, par exemple l'été du côté de Salzbourg, et certains trouvent une passerelle là-dessus. Ça se fait même au niveau des coachs, hein. On le voit avec Jesse March, hein, qui maintenant à Leipzig, hein, c'est ça, oui. Qui est passé par qui monte les échelons dans le groupe Red Bull. À voir comment ils vont gérer Red Bull Bragantino, s'ils vont envoyer les meilleurs gamins vers l'Europe, vers Salzbourg ou voire vers Leipzig, qui sont les clubs phares. Et ce modèle de jeu offensif très lié à l'image de la marque aussi, hein. On le retrouve aussi chez Mauricio Barbieri, qui est un des fans du jeu de position. C'est une équipe qui aime beaucoup les petites combinaisons, les triangulations sur les côtés, qui a un pressing, qui est capable de déclencher du pressing, qui est très... Toute proportion gardée, c'est un peu ce que fait Guardiola à City, hein, toute proportion gardée, parce qu'on en est loin quand même. Donc oui, on retrouve véritablement ces spécificités. Des jeunes, un entraîneur jeune, parce que Barbieri est jeune, avec des idées plus ou moins novatrices. Donc oui, c'est la signature maison, ouais.
Alors Charles, vous les avez joués il y a peu de temps avec Sampdoria, cette équipe de Bragantino, et vous avez perdu d'ailleurs 1-0. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette équipe? Que t'inspire ce modèle également Red Bull qui s'exporte aussi au Brésil maintenant?
Ah bah c'est très proche de ce qui vient d'être décrit. C'est la force montante du football brésilien. C'est le nouveau club à la mode. Ils investissent énormément, ils ont beaucoup d'argent, donc ils achètent beaucoup de toutes les jeunes pépites qui sortent du football brésilien, notamment Prachedes qui était à l'international. Et c'est exactement ça. C'est un football une équipe très jeune, très dynamique, qui a plein d'énergie, qui presse très haut. Et voilà, du jeu court, pas de dégagement 6 mètres, ça ressort au sol. C'est du... Voilà, exactement, toute proportion gardée à la Guardiola. Et c'est une équipe qui est très difficile à jouer parce que ils font plein d'énergie, ils sont très jeunes, ils courent énormément. Donc Barbieri fait un beau travail et il ne demande qu'à prendre plus de place dans le paysage du football brésilien.
T'en fais ton favori pour cette finale de Sul-Americana, Bragantino aussi?
Ouais, j'en fais mon favori. Ouais.
C'est vrai que Marcelin, l'Atlético Paranaense, qui est l'adversaire, ils vivent une saison un peu bizarre. Hein. Ils sont en finale de Sul-Americana, mais ils jouent quasi le maintien en championnat.
Oui et non, parce qu'ils sont 11e, ils ont 8 points d'avance sur le premier relégable, donc ils sont pas menacés par la relégation, et c'est normalement une équipe qui peut viser la 8e place, je pense. Mais là, ils sont en finale de la Sudamericana, et ils sont aussi en finale de la Coupe du Brésil, donc ils sont à 65 matchs cette saison déjà, et ils jouent tous les 3 jours, donc ils ont fait le choix de mettre l'équipe réserve pour de nombreux matchs du Brasileirão, c'est pour ça qu'il y a des résultats qui sont moins bons. Mais le choix est logique, puisque s'ils gagnent l'une des deux coupes, ils sont directement qualifiés en Libertadores. Et sinon, même s'ils terminent 15e, ils vont être qualifiés en Sudamericana. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de privilégier le championnat. Même s'il faut dire qu'ils sont quand même à un seul point de la 9e place, qui devrait être qualificatif pour la pré-Libertadores. Donc, même en championnat, ils sont pas très loin. Et je pense que la finale peut être vraiment intéressante. Autant celle de Libertadores, elle peut être fermée. Là, c'est deux équipes qui aiment jouer. L'Atlético Paranaense fait vraiment un très bon travail depuis quelques années déjà. Il y a aussi eu des investissements dans le centre de formation pour adapter la philosophie de jeu entre les pros et les équipes de jeunes. Par exemple, dans le championnat d'État, en début d'année, ils font surtout jouer les U23. Il y a une pelouse synthétique, donc ils sont un peu obligés de faire du jeu. Et ils recrutent des joueurs, pas forcément des gros noms, mais des joueurs qui vont s'adapter à ce système. Au niveau des choix d'entraîneurs, ça se voit aussi. Et ils offrent une certaine stabilité par rapport à d'autres clubs brésiliens. Donc c'est un club qui travaille très bien et qui a déjà des résultats, parce qu'ils ont gagné la Sul-Americana en 2018 et la Coupe du Brésil 2019, avec des joueurs comme Renan Lodi ou Bruno Guimarães qui sont aujourd'hui en Europe, et des joueurs qui sont importants aujourd'hui à Palmeiras avec Rony et Rafael Veiga.
Ouais, juste, hein, parce que depuis tout à l'heure, on dit ils vont terminer à la 9e place et joueront l'après Libertadores. Je rappelle qu'il n'y a que 20 clubs, hein, dans le championnat du Brésil. Donc voilà, ça c'est peut-être un autre débat aussi qu'on pourra se poser un jour, mais ça pose la question peut-être du niveau de la Libertadores aussi. Hein.
Nico, ouais. Si également, en plus de faire... Red Bull, mon favori. Nous, on va énormément supporter Red Bull, parce que si Red Bull gagne, il va y en avoir 9 qui vont aller, ça va ouvrir une nouvelle place, voilà, pour aller en Libertadores. Tandis que si l'Atlético Paranaense gagne, étant en dehors des 8 premiers, ça ne va pas ouvrir la place du 9e.
Ouais. Ouais, parce que vous êtes qu'à 2 points de la 9e place, ouais, avec San Paolo.
Pour le San Paolo, c'est bien plus important que ce soit le Red Bull qui soit champion.
Bah, c'est pour ça, en fait. Voilà, Red Bull Diesel. Et ce podcast qui touche à sa fin. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Nicolas Cougou, Marcela Chamoin, que vous pourrez lire sur le site Lucarno Posé. Il y a de bons livres à offrir à Noël qu'on peut commander sur Hello, Nico, ou pas?
Ah, il y a de très bons livres, il y en a un écrit par monsieur Marcelin Chamoin, hein, qui est avec nous, c'est une biographie de Garrincha que je vous invite vraiment à lire. Parce
magnifique,
que,
parce c'est que quoi, c'est, je l'ai à la maison, alors je vais pas te mentir, je l'ai pas encore lu, mais il est dans le top 3 de ceux que j'ai à lire là.
Ouais, bah voilà, tu vas voir, il est très très bien, et puis on a sorti la traduction française des 11 Caminos, qui est le livre référent sur Bielsa, c'est Bielsa qui te parle directement à la première personne, donc c'est forcément à lire. Et puis il y en a peut-être un qu'on essaye de faire arriver sur le foot brésilien, toujours Marcelin, qui devrait arriver avant Noël. On travaille dessus, donc voilà, il y a de bons livres à lire chez nous. Ouais.
Merci Nico, merci Marcelin, merci Charles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite, Charles?
Qu'on se qualifie en Libertadores pour cette année, ce sera très bien.
Bah écoute, du coup on va croiser les doigts pour Bragantino, c'est ça?
Exactement, exactement. Et pour qu'on gagne ce soir aussi.
Merci.
Et aussi nos deux prochains matchs après celui-là, c'est justement Palmeiras et Flamengo.
Ah bah génial, magnifique, les deux finalistes, ouais, de la Libertadores. Merci Charles Lambert qui est dans le staff de Rogério Ceni du côté de São Paulo. Merci à toutes et à tous. Merci à Jimmy Brown et Jérôme Thomas à la production, Suzanne Folli à la réalisation. À très vite, prenez soin de vous. Ciao, ciao.
RMC After Europe. Le podcast. Nicolas Villas.